Bonjour, c'est Cyrus. Je suis au Jeu du Stan, donc un festival organisé pour la première fois cette année par la Caverne du Gobelin, et je suis en compagnie de Quentin, donc qui travaille effectivement à la Caverne du Gobelin, c'est bien ça?
C'est ça, bonjour.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'organise un festival? Alors déjà, pourquoi avoir choisi d'organiser un festival dans la région?
On fait un festival dans la région parce qu'on a deux boutiques. On en a une sur Metz et une sur Nancy. Et donc ça, on a eu des facilités sur Nancy pour avoir la salle. Et donc ici à la SNL, et tout s'est fait du coup suite à nos contacts.
Ok, alors effectivement, donc pour nos auditeurs, on est ici, on est au stade Marcel Picot. Donc c'est le donc les footeux vont tout de suite comprendre. En fait, c'est le stade qui héberge la SNL, donc le club de foot de Nancy. Et donc on est dans les salons du stade. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. On a vu sur le stade par les fenêtres. Bon, je suis pas très footeux, donc ça m'impressionne pas plus que ça. Mais je pense qu'il y a des gens que ça va particulièrement rendre sensible. Et alors comment on arrive à avoir des locaux comme ça? Parce que j'imagine qu'il faut louer. Comment ça se passe?
Alors à ce niveau-là, on a un contact ici à la SNL qui a pu facilement nous mettre en relation avec la personne qui s'occupe de la gestion des salles. Et du coup, on a pu faciliter à avoir ces locaux-là, enfin, faciliter entre guillemets. Mais c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas de contact, n'a rien, voudrait se dire, bah, tiens, je vais faire un festival du jeu ou n'importe quel autre festival ici dans les salons de la SNL, ça va être un petit peu plus compliqué.
Et vous les louez en fait ces salons? Comment ça marche financièrement parlant?
Il y a des accords avec le contact, ouais, c'est le système de location. Ouais.
Parce que, enfin, je précise ça parce que l'entrée elle est gratuite quand même pour les visiteurs. Donc vous attendez, j'imagine, un retour quand même sur l'investissement de la location de ces locaux quand même. Il faut qu'il y ait, j'imagine, un minimum de retour quand même. Déjà, vous attendez combien de visiteurs sur ce week-end?
Le plus possible, on va dire. Non, on est un peu. On est un petit peu dans le flou sur le nombre exact. On va dire que plusieurs centaines, ça serait bien. Après, si on dépasse vraiment, si on a vraiment des milliers de visiteurs, ce serait même très très bien. Non, c'est vrai qu'on essaye d'avoir du monde, mais on n'a pas de chiffres précis.
Là, c'est vraiment un GDC cette année. Et si ça marche bien, ce sera reconduit l'année prochaine. Parce que j'ai déjà vu sur l'affiche, c'est marqué première édition. Donc ça sous-entend quand même que vous espérez bien pouvoir faire une deuxième édition l'année prochaine.
Ah, on y compte, on travaille déjà sur les prochaines éditions. Non, on va déjà voir comment celle-ci se passe, mais il y aura très certainement d'autres éditions. Pour le moment, on ne voit rien qui pourrait nous dire, bah, ne continuez pas les gars, arrêtez-vous là. Pour le moment, voilà, mais bon, on n'est que à la première journée, on va voir pour la suite.
Alors on en parlait cet été dans un épisode spécial chez Proxy Jeux. On disait que c'était des événements qui se multipliaient un peu partout en France. Hein. Maintenant, je pense que si on cherche bien, on est capable de trouver un petit festival n'importe où, enfin quelque part en France, en tout cas sur des très mobiles, on est capable de trouver un festival tous les week-ends en France, je pense. Quelle est la volonté derrière? C'est faire connaître le monde du jeu de société, c'est aussi vous amusez-vous à organiser cet événement, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça?
Bah c'est vrai que déjà pour nous c'est très agréable. Bon, c'est vrai qu'on pourrait vendre des aspirateurs ou autre, non, on essaie de vendre des jeux parce que c'est vrai que le milieu est quand même beaucoup plus agréable, c'est sympa, on voit tout type de personnes, c'est vraiment très très agréable de rencontrer ces personnes tout au long de l'année sur les différents festivals et notamment ici à Marcel Picot. C'est vrai que c'est une chance qu'on a d'être dans ce milieu-là et de faire découvrir aussi notre passion. Parce qu'avant tout, c'est vrai qu'on est des passionnés de jeux et on veut vraiment le montrer, le diffuser, vraiment partager cette passion. Et on est vraiment dans un univers où maintenant on a des jeux pour tout le monde, du plus petit jusqu'au plus grand, au plus passionné. On peut vraiment faire découvrir notre passion à tout le monde via ce biais-là.
Alors transition parfaite du coup, passons à la programmation entre guillemets du festival. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses, surtout pour un premier jet. Est-ce que tu peux nous faire un peu le panel de tout ce qui est organisé ce week-end?
Ouais, bien sûr. Alors au niveau d'organisation, on a déjà trois étages. On a un premier étage, donc le salon Honor où vous trouverez du jeu de cartes à collectionner. Donc il y a des tournois de Magic, Yu-Gi-Oh!, Vanguard, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a également des initiations Pokémon pour les plus jeunes ou même pour les plus grands qui souhaiteraient découvrir ce jeu de cartes.
Alors on est justement dans ce salon et effectivement donc je suis arrivé, il y a des parents avec leurs enfants qui sont en train de jouer à Pokémon et on a à l'autre bout de la salle on a des joueurs de Magic qui sont en tournoi officiel, donc si j'ai bien compris, puisque on a un arbitre officiel qui leur a donné les consignes en anglais. Donc j'espère que les joueurs étaient avertis, qu'ils étaient bien au point, parce que là, à la fraîche ce matin, il fallait être au top de la compréhension de l'anglais pour. Bon, j'imagine que c'est des joueurs aussi qui ont un petit peu l'habitude.
Oui, bien sûr, oui, ils ont vraiment, vraiment l'habitude. C'est vrai que le jeu de cartes, c'est aussi cette richesse-là. On peut jouer entre amis sans se prendre la tête, ou on peut essayer de se dire, bah, tiens, je vais essayer de viser un objectif un peu plus haut, un peu plus prestigieux, essayer de monter en compétition et essayer d'aller un peu plus loin. Et donc, toujours dans cette veine-là, on a donc un tournoi Magic. Et demain, on a également ce qu'on appelle un WSEQ. Donc c'est un gros tournoi qualificatif pour des tournois pour les championnats d'Europe, exactement. Et donc là où on attend pratiquement 80 joueurs. Donc pareil
sur... Ah oui, 80 joueurs là. Ah oui, bah là déjà on va avoir là quasiment une première centaine déjà rien qu'avec ça. Ok, donc ouais, c'est impressionnant. Et vous allez réussir à tous les faire rentrer dans cette salle là ou vous allez devoir aller un petit peu dans d'autres salles, non ?
Non, normalement c'est prévu que tout le monde rentre dans cette salle là. On va optimiser pour que tout le monde puisse accéder à la salle.
Ok, bah je viendrai prendre une photo demain parce que je pense que ça va être assez impressionnant. Donc ça c'est le, on va dire c'est pour la partie. Alors on a du core gamer là avec Magic et puis du plus familial avec Pokémon. Et donc si on monte d'un étage, alors on arrive où ?
On arrive dans le salon bronze. Alors déjà on aura la buvette. C'est important pour certains, précisons-le.
Ouais, c'est important, je suis déjà allé prendre mon café moi.
Et on a également donc le casino Jura qui est là pour nous faire des initiations aux jeux de casino, jeux de table, donc tout ce qui est roulette. Donc ils ont un jeu géant. On a également une association, donc l'association Zamzam, hein, qui est une association nancéenne qui présente des jeux en bois. Des jeux en bois géants faits avec des matériaux de récupération, notamment des meubles qu'il a transformés en jeux. Donc il y a un petit peu de tout, c'est assez original, faut tester. Il y en a pour un joueur, il y en a pour deux, c'est vraiment original, tout est expliqué, tout est très simple, en 30 secondes c'est appris, mais ça change de l'ordinaire. Et donc ça c'est sur le salon 2, et puis après on peut encore monter sur le salon 3, où, l'étage 3 où vous aurez plusieurs salons, avec le salon platine qui est là, un espace pour les tout-petits, où vous aurez des jeux, des espaces un peu plus cosy, du maquillage... des activités liées avec des ballons. Vous arriverez ensuite dans le salon or où là on est vraiment sur le jeu société plus traditionnel avec de nombreuses démonstrations à disposition, des animateurs qui sont là pour présenter des jeux mais également des éditeurs. On a des éditeurs tels que Yellow, Blue Orange, France Carte, on a Intrafin, on en a plein, on a BlackRock également qui sera présent. De nombreux éditeurs qui vont présenter donc leurs nouveautés, également peut-être pour certains des prototypes.
Alors oui, j'ai eu l'occasion de passer faire un tour là-bas. Alors on a essentiellement pour cette première année les régionaux, on va dire, parce que Yellow ils sont installés dans une ville qui touche Nancy. On a Orange qui est à Pont-à-Mousson, donc qui est une ville à 30 km. À Trafin, je crois qu'ils sont où ?
Ils sont en Belgique.
BlackRock, en revanche, ils sont un peu plus loin. Et ouais, donc j'imagine que c'est des partenaires un peu privilégiés pour vous déjà le restant de l'année, non ?
Oui, c'est sûr. Bah déjà, le fait que ce soit des locaux, on a plus facilement des liens avec eux et ça améliore aussi les partenariats que l'on peut créer avec eux comparé à d'autres éditeurs qui sont peut-être un peu plus loin dans la France.
Oui, c'est sûr, il y a facilité pour eux à dire on envoie une personne, j'imagine, pour faire des démos peut-être en boutique ou ce genre de choses le reste de l'année, non ?
Oui, ça c'est déjà arrivé. Et puis même après, essayer de faire des initiations découvertes ou même pour eux, pour avoir des retours sur leur prototype, tout peut être envisageable.
Ok. Est-ce que pour les éditeurs, vous avez demandé une participation financière pour la présentation, enfin pour leur stand, comment ça fonctionne ?
Cet aspect-là, je ne l'ai pas géré, non.
Ok, bon, dommage. La dernière, donc le dernier salon dont tu ne m'as pas encore parlé, il s'agit de ?
Du salon argent. Donc qui est également au troisième étage. Donc là il y a du jeu de société sous forme de tournoi. Donc les gens peuvent participer à des petits tournois divers et variés. Par contre c'est une entrée payante pour cela. Mais les gens peuvent gagner des jeux de société, les jeux auxquels ils ont joué durant les tournois. Et vous avez également d'autres démonstrations de jeux. Là, Ali a des associations. Vous avez des associations locales qui sont présentes, qui présentent un petit peu ce qu'ils font. Donc il y en a certaines qui font du société, du familial, du plus gros, du plus expert. Mais on a également de la figurine, qui est des associations de jeux qui sont présentes, qui font de la figurine. On aura notamment une table de Warhammer 40 000 et une table de Zombicide, une aujourd'hui, une demain. Et voilà, vous pourrez aussi découvrir tout ça, toutes les activités. Si vous cherchez des associations locales, c'est aussi l'occasion de les rencontrer.
Ouais, alors moi j'en connais deux des associations. Peut-être que tu arriveras peut-être à me décrire un peu plus largement ce panel. Je sais que sur Nancy il y a la Fin de l'Ours et à Metz, moi je fréquente justement à titre personnel l'Épée Reforgée. Tu connais d'autres associations dans la région?
Oui, bien sûr. On a la communauté du plateau qui est là une association de plus figurinistes mais qui font un petit peu de société aussi. On a les joueurs du fort qui sont là. Une association qui sont dans le nord de la Moselle.
Plutôt du côté de Thionville, je crois, non? Je crois que c'est une ville qui doit toucher Thionville, non?
Oui, c'est ça. C'est du côté de Thionville, effectivement, ouais. Voilà, on a diverses associations. C'est vrai que la liste est assez longue.
Et pas de soucis. Ouais, donc en fait, tout ça pour dire qu'il y a un panel quand même assez varié, je trouve, surtout pour un premier jet. Je tiens à vous féliciter parce qu'il y a... je trouve effectivement qu'il y a... Le pari est assez réussi, il y en a pour tout le monde. Et effectivement, je notais, pour les tout-petits, il y a vraiment des choses qui ont été prévues pour vraiment les plus petits. Il y a vraiment des choses, maquillage, jeu de ballon, tout ça. Comment ça s'organise la communication pour un premier festival comme ça? Comment vous gérez ça? Vous communiquez dans les boutiques, vous comptez sur le bouche à oreille, les réseaux sociaux, comment ça marche?
Il y a beaucoup de bouche à oreille, c'est vrai que notamment via les associations, comme il y a beaucoup de bénévoles qui sont venus via les associations, eux-mêmes, comme ils étaient impliqués dans le projet, ont voulu communiquer, ont voulu ramener du monde. On a également les communications en boutique, la communication sur le net. On a créé un site pour l'occasion, donc lesjeuxdustan.fr, où on a mis en place toute la programmation, toutes les explications, etc. Il y a eu du teasing via les réseaux sociaux également. Et après, on a différents partenariats qui ne sont pas dans le milieu du jeu, avec qui on a pu communiquer et essayer d'avoir de la vue sur notre festival et des gens qui viendront par la suite.
Un public un peu plus large aussi, histoire d'élargir un petit peu le public potentiel. Ok, mais écoute, je te remercie. Est-ce que tu aurais des choses à ajouter éventuellement?
Oui, faut pas hésiter à venir ce week-end au stade Marcel Picot. On est ouvert de 10h à 18h aujourd'hui et demain.
Alors on va inviter nos auditeurs plutôt à venir l'année prochaine, parce que du coup voilà, on refera une annonce. Voilà, l'idée c'est plus de donner un ressenti aux gens sur ce festival, ce que ça a donné, et puis leur expliquer un petit peu comment ça s'organise. Et puis l'année prochaine, on manquera pas de refaire une petite communication, redire aux gens que ça existe et qu'il faut y aller, et puis voilà, on les redirigera vers l'interview précédente pour leur donner un petit aperçu de ce que c'était. Oui, effectivement, venez si vous êtes dans la région l'année prochaine, venez jeter un coup d'œil. J'imagine qu'en plus il y aura des chances que avec le bouche à oreille ça risque de grossir.
Ouais, bien sûr, on espère.
Juste quand tu dis on espère quelques centaines, juste pour nos auditeurs qui ont peut-être l'habitude d'entendre parler de festivals comme Cannes, comme voilà, où là on a des dizaines de milliers de personnes, là on est sur des festivals très petits à l'échelle régionale. Pour donner un exemple, le plus gros festival dans la région c'est celui d'Épinal, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais.
Et je crois qu'ils atteignent, c'est vraiment un gros festival, ils atteignent 12 000 personnes, je crois, sur le week-end. Donc c'est vraiment énorme. Donc là,
on n'est clairement pas sur la même taille de festival, mais on veut aussi quelque chose de plus accessible, un peu plus humain, et vraiment un festival destiné à la famille. Donc on sait pas plus mal qu'on n'ait peut-être pas autant de monde qu'eux, mais qu'on ait quand même l'espace de circuler, on ait vraiment des tables où les gens sont à l'aise. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas à l'aise à Épinal, mais c'est vrai qu'ici, qu'on a un petit peu moins de place aussi qu'au centre de congrès d'Épinal, et on veut vraiment que les gens soient à l'aise. Et donc voilà, si tout le monde est bien, si les gens viennent, s'amusent, qu'on soit 10 ou 10 000, la mission est remplie, quoi.
Ah, non, c'est le principal. Écoute, je te remercie beaucoup Quentin pour ce temps que tu m'as accordé. Je te souhaite une bonne continuation, bon courage pour la continuité de l'organisation. Et puis à bientôt, au revoir.
À bientôt et bonne partie.
suis avec Nicolas Sato. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors Nicolas Sato, vous devez reconnaître son nom, c'est un auteur de jeu. Alors t'es un peu l'auteur local là aujourd'hui.
Oui, on va dire ça. Un peu tout près, moi je suis d'Épinal.
Voilà, donc à Nancy, on est à quoi? On est à 30-40 bornes d'Épinal, un peu plus.
Ouais, une demi-heure en voiture, quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure.
Alors Nicolas, toi tu as déjà été édité, tu as sorti Lutès chez Superlude et Kenjin, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, oui.
Il y avait d'autres jeux pour déjà édités?
Alors non, les prochains sortiront en 2017.
Alors est-ce que tu peux déjà commencer par nous parler un petit peu de ton aventure sur Lutès? Comment ça s'est passé? Comment t'as trouvé un éditeur? Et comment ça s'est passé avec lui?
Alors Lutès, en fait, j'avais déjà signé Kenjin avec Antoine, donc de Superlude, et je l'avais rencontré par le biais d'un ami, Mathieu Lanvin, qui venait de gagner le CNJ avec un de ses prototypes, et Antoine l'avait contacté pour lui demander s'il avait des jeux disponibles. Et comme il avait déjà tout signé à l'époque, il lui a dit ben non, moi j'ai plus rien, par contre je connais quelqu'un qui fait des petits trucs sympas, tu devrais regarder. Et donc Antoine donc m'a contacté et je lui ai envoyé tous les fichiers de règles des prototypes que j'avais à l'époque. Et Kenjin l'a intéressé. Donc j'ai envoyé un prototype, ils ont réessayé avec toute son équipe. Et donc on a signé Kenjin et pour l'édition de Cannes, donc c'était en 2013 je crois si je me souviens bien, 2014. Juste avant l'édition de Cannes, en fait, j'avais refait le proto de Lutès et je lui ai montré pendant qu'on travaillait sur Kenjin et il m'a dit on le fait aussi.
Et alors Lutès a été victime un peu de son succès en fin d'année dernière. Il me semble que là du coup c'est un jeu qu'on trouve plus en ce moment. Mais j'ai vu effectivement Antoine Navrou, donc responsable de Superlude, refaire un peu de com dernièrement. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe sur Lutès?
Oui, Lutès a été en rupture assez vite. Entre 2 et 3 mois après le temps de faire revenir toutes les boîtes là il est à nouveau disponible depuis quelques mois puis du coup on essaie de relancer un petit peu la com.
Ouais, c'est un jeu que j'ai vraiment trouvé très intéressant donc j'espère que ça va repartir. Tu sais combien il y a eu d'exemplaires tirés sur le premier tirage?
Je crois que le premier tirage était 3000 exemplaires.
Ouais, donc effectivement c'est un petit tirage et le deuxième du coup c'est sûrement à peu près pareil. Tu sais pas?
Non, je sais pas. Faudrait demander à Antoine.
Ok. Alors, je te rencontre là et en fait, je vois que tu présentes un prototype avec des jolies petites figurines en Fimo. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que ce prototype-là a un avenir déjà tout tracé ou est-ce que c'est vraiment, t'es vraiment à la recherche d'éditeurs, distributeurs, etc.?
Alors oui, c'est Tiki. C'est un jeu qui a participé à pas mal de concours en 2014. Qui a été nominé sur plusieurs prix et je l'ai signé avec IF Association, donc c'est une maison d'édition qui monte des projets pour récupérer des fonds pour des associations caritatives et là tout récemment IF Association va s'arrêter mais le projet continue puisque un des gérants de IF Association va monter sa maison d'édition et du coup continue le projet de Tiki donc, qui devrait s'appeler normalement Aux Éditions.
Donc l'éditeur. Et du coup, ce sera un éditeur à but lucratif et plus une association, c'est ça?
Oui, ça sera un éditeur classique, mais on garde le projet de soutenir une association caritative. Et là, les bénéfices, du coup, certains des bénéfices iront pour une association vosgienne qui achète du matériel sportif pour des personnes handicapées.
Ok, très bien. Et alors, est-ce que tu peux nous parler en deux mots de ce proto? Parce que je peux comprendre qu'il allait sûrement y avoir un Kickstarter lancé pour communiquer dessus, pour financer. Parce que j'imagine que du coup, il faut amener des fonds à cette nouvelle société d'édition.
Oui, alors avec IF Association, ça devait déjà être un Kickstarter. On fonctionnera de la même manière. Le projet devrait démarrer normalement pour février, mars. On est en train de voir encore... à quelle date on lance le Kickstarter, si on attend le festival de Cannes ou pas. Et on attend aussi de finaliser tout le projet, en fait, pour lancer le Kickstarter une fois que tout est prêt, pour ne pas faire attendre les personnes qui auront pledgé un an qu'on finisse de développer le jeu.
Ok, bah c'est une volonté très très louable de ta part. J'ai justement vu passer quelques tweets hier sur ce genre de discussion. Un éditeur passé dans une rétroactive qui disait qu'on ne faisait pas un Kickstarter sur un projet qui n'était pas qui était fini. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça effectivement. Mais bref, passons pour la polémique. Donc, en quelques mots, tu peux nous expliquer le jeu?
Alors, dans Tiki, on est des dieux. Jusque là, tout va bien. Et on raffole des fruits qui poussent sur l'île. Pour cela, on va essayer d'influencer les différents villages. Donc, on a 9 tuiles qui sont réparties sur la table. Et les villages vont offrir de 0, 1, 2 fruits. Ou alors faire perdre un fruit à celui qui sera placé tout en haut du totem. À son tour, on va donc créer des totems en plaçant donc des éléments en résine dans les villages. Soit on crée un nouveau totem. Soit on déplace un totem qui nous appartient puisqu'on est placé tout en haut. Et quand on va les déplacer, on va avoir une mécanique d'awalé où on va semer les étages un par un. Et dès qu'on a 3 étages dans un village, le village est contenté. On le résout. Celui qui est placé tout en haut gagne le nombre de fruits qui est indiqué sur le coin de la tuile ou alors il perd le nombre de fruits. Et le but, le joueur gagnant est celui qui arrive le premier à 4 fruits ou alors quand il n'y en a plus dans la réserve.
Ok, ça me paraît assez clair. Faudrait que je prenne des photos un petit peu pour que les gens se rendent compte du matériel et puissent se projeter un peu mieux. Tu parles de résine. Tu peux nous expliquer un petit peu votre processus de recherche sur cet aspect-là en termes de matériel? Parce que là, toi, t'es parti de la FIMO. Vous teniez vraiment à garder un matériel similaire à celui des prototypes?
Alors oui, tout à fait. Quantif Association m'a contacté pour signer le jeu. La première chose qu'il m'a dit, c'est qu'il voulait quelque chose qui s'approche le plus possible au prototype, qui est en fimo et très coloré. Et donc on a cherché pendant longtemps pour essayer de le fabriquer. On était arrivé un petit peu à la conclusion qu'on n'y arriverait pas et on était parti sur du totem en bois, pyrogravé, un peu design. Et finalement, juste avant de lancer le Kickstarter, on a tout arrêté, on a trouvé une usine qui nous fabriquait tout en fimo, fait à la main. Donc on a tout commencé à recalculer et au dernier moment, changement, on a eu une usine qui nous faisait tout en résine peint à la main.
Une usine qui vous fait tout en fimo à la main, c'était une usine où c'était en Chine?
C'était une usine en Chine qui faisait de la déco pour Noël. Et donc on les a contactés et on leur a demandé si c'était possible. Et donc ça restait accessible au niveau du budget, du tarif, ouais.
Alors du coup finalement résine. Donc c'est peut-être la même usine que celle qui fait les résines pour Super Meeple, non? Peut-être Tikal, etc.
Alors je peux pas vous dire. Je sais pas quelle usine le fait.
Ok, donc du coup on va avoir de la belle résine. C'est comment ça donne un aspect pierre. T'as déjà vu un peu ce que ça donnait?
Non, ça sera vraiment comme le prototype avec des pièces très colorées.
Bah écoute, on essaiera de relayer le Kickstarter quand il sortira. Tu m'as dit que t'avais un autre proto déjà dans les cartons et qui peut-être allait être édité. Tu peux nous en dire un peu quelque chose ou pas?
Alors oui, j'ai encore un autre jeu, Oh My Ghost, qui a été primé au concours de Boulogne cette année. Il est en signature, donc pour l'instant c'est pas encore fait, donc je peux pas encore trop dire, mais normalement d'ici peu il devrait y avoir beaucoup plus d'informations.
Ok, bon alors on va rien dire pour l'instant, on va croiser les doigts pour toi et puis on va te souhaiter bonne chance. Très bien, bah écoute, merci beaucoup Nicolas pour ce temps que tu m'as consacré. Bonne journée à toi.
Merci, bonne journée.
Okay, alors, on commence par le bleu en premier, le vert, voilà, et le noir il se met là. Donc le but du jeu, ça va être de faire le tour du plateau, bien évidemment, et d'arriver à franchir la ligne le premier. Pour ça, on va avoir des cartes. On va avoir 3 cartes au début du tour et on va toujours en avoir 3. Ok, ces cartes, elles ont 2 informations. La première, en haut, c'est une action qui n'est jamais obligatoire. Et en dessous, vous avez une accélération qui est obligatoire jusqu'au bout. Le pouvoir, vous l'avez à 0 au début. Quand vous l'utilisez, il redescend à 0, quel que soit le niveau dans lequel vous montez. en sachant que le pouvoir 1, c'est une action simple que vous avez de manière plus ou moins différente à chaque fois. L'action 2, c'est la même action pour tout le monde, c'est jouer une carte supplémentaire. Et l'action numéro, enfin, le pouvoir numéro 3, il est différent chez chacun, il est très puissant. On va déterminer de savoir s'il y a des rochers sur la piste. Donc pour ça, on va lancer un dé, tuile après tuile, pour savoir combien il y a de rochers sur la piste. Donc le premier joueur, le bleu, va lancer 3. Donc c'est plus que 2 et 3. Donc il y a 2 rochers sur cette tuile ici. Si vous aviez fait 4 ou plus, on en aurait mis ici également. Comment ça se passe? Donc, quand on va avancer et qu'on va, bien, par exemple, percuter un rocher, on arrête automatiquement notre action et on prend un point de dégâts. Ensuite, celui de derrière, il va nous envoyer un missile dans les fesses. Qu'est-ce qui se passe? On reprend un point de dégâts. En plus, il arrive comme un fou et il nous percute. Quand il nous percute, qu'est-ce qui se passe? On reprend un point de dégâts. Alors, celui qui nous percute, pas de point de dégâts parce que c'est prévu. Il a renforcé son avant, donc lui, il prend pas de points. Et par contre, celui qui se fait percuter, il perd un point et il avance de 2 cases. Alors, bien évidemment, c'est cumulable. C'est-à-dire que si jamais il y a un rocher devant ou un autre adversaire, eh ben, il reprend un deuxième point de dégâts parce qu'il a traversé le rocher. Tout ça va vous dire qu'il y a facilement la possibilité de perdre des points de dégâts rapidement. Donc, à partir du moment où on sort, c'est-à-dire qu'on a perdu 3 points de vie, on va faire ce qu'on appelle une sortie de route. Une sortie de route, on va donc quitter le plateau et on va revenir sur la zone de contrôle, donc la dernière ligne rouge, la plus proche qu'on vient de quitter. Sauf s'il y a effectivement quelqu'un dessus, auquel cas on recule sur la zone de contrôle suivante. Dernière chose, vous allez pouvoir donc jouer une carte, donc vous avez 3 cartes au début du tour et vous allez jouer une carte par tour. Ces cartes, une fois en fonction de la position que vous avez sur le plateau, vous allez pouvoir en récupérer de la couleur qui est déterminée, soit une verte, soit une rouge. La différence entre les cartes vertes et les cartes rouges, c'est que les cartes vertes ont des accélérations qui vont de 1 à 3, les cartes rouges ont des accélérations qui vont de 3 à 5. Voilà. On va pouvoir commencer à jouer donc. Tu envoies le missile. Alors le missile il fait rien, bon en fait il arrive, il touche rien, et par contre tu avances de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien, tu viens de prendre la tête. Et tu récupères une carte. Ok, donc tu balances un missile. Le missile arrive ici, boum. Alors le bleu il prend un point de dégâts encore. C'est pas mal. Et tu te déplaces de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Encore un point et il fait une sortie de route. Ça va être sympathique ça.
Je suis en compagnie de Christophe d'Intrafin. Bonjour Christophe.
Bonjour à tous.
Alors Christophe, donc tu es le responsable France d'Intrafin, si je dis pas de bêtises. Tu es localisé dans la région, c'est ça?
Tout à fait, moi je suis localisé à Metz, donc tout près d'ici, et je suis effectivement le représentant de Intrafin en France.
Et Intrafin, c'est une société belge, c'est bien ça?
Tout à fait, c'est une société belge, donc avec tout le siège social et l'activité principale, c'est-à-dire le stock, tous les envois, la facturation, se fait en Belgique.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les activités d'Intrafin?
Alors Intrafin existe depuis 1991, depuis cette période ils font donc de la distribution majoritairement, donc surtout du Magic, plus des produits en anglais, des accessoires, et depuis on va dire 5-6 ans, depuis que je suis réellement dans la société, on développe du jeu de société en français, voilà, en édition.
Donc c'est essentiellement de la localisation, c'est ça? Vous n'allez pas chercher vous des auteurs pour les éditer?
Alors, pour l'instant, effectivement, on fait que de la localisation, en sachant qu'il y a suffisamment de choix par rapport à ça pour pouvoir effectivement proposer des produits intéressants. Et on n'a pas de bureau ou de structure suffisante pour l'instant pour faire de la création, même si on pourrait, mais c'est pas l'objectif, on va dire.
Alors ici, tu es venu sur les jeux du stand. Tu présentes donc j'ai vu 3 jeux ici. Warriors, que nos auditeurs doivent pas mal connaître parce qu'on a déjà pas mal chroniqué ce jeu. Donc qui a été effectivement localisé en français chez Intrafin, et en particulier Rush and Bash, sur lequel je voudrais qu'on fasse un petit focus, parce que là je sors d'une partie de Rush and Bash, je trouvais ça vraiment très très sympa. Est-ce que tu peux nous faire un pitch rapide de Rush and Bash?
Oui, alors Rush and Bash c'est un mélange entre Mario Kart et les fous du volant, donc ça va être un jeu de course assez délirant où le but effectivement d'être premier, d'avoir, une fois avoir fait le tour du circuit, et tout en pourrissant un maximum les autres, en leur mettant des bombes sur le chemin, envoyer des missiles pour leur faire perdre des dégâts, et puis éventuellement faire des changements de voie judicieux pour esquiver justement les ennemis qu'on a mis sur le plateau.
Alors le pari est complètement réussi. Enfin, moi j'avais fait une partie, je trouvais ça vraiment un bon ressenti de Mario Kart, avec un système qui permet effectivement au dernier d'avoir une chance de rattraper le premier comme dans Mario Kart. Avec la possibilité de poser des bombes, d'envoyer des missiles, etc., etc. Voilà, moi j'invite nos auditeurs à se pencher un petit peu sur le jeu, donc il va sortir très bientôt en français. Il y avait eu un premier tirage multilingue, c'est ça?
Oui, tout à fait. Red Glove, qui est l'éditeur en fait italien du jeu, a fait une sortie pour Cannes et un petit peu pour le début d'année, pour le début de cette année en 2016, donc en multilingue. On avait récupéré la version française justement, enfin la version, on en avait racheté un certain nombre. Et vu le succès qu'on a rencontré à Cannes, on a acheté la licence pour l'avoir en France exclusivement.
Donc là, du coup, ça va être une version purement française qui va sortir bientôt, mi-novembre, c'est ça à peu près?
Exactement, c'est une version purement française qui sort avec juste donc effectivement les règles en français, et elle sort d'ici une dizaine de jours, donc pour entre le 15 et le 20 novembre.
Ok, bah, j'invite nos auditeurs à acheter un coup d'œil à ça, Russian Bash. Vous aurez des photos sur le billet, tout ça. Et a priori, tu m'as dit, il y a un prix annoncé dans les 25 euros.
Tout à fait. Alors, c'est un prix de public à 25 euros, en sachant qu'en plus, à l'intérieur, il y a énormément d'éléments 3D. Il y a des volcans, il y a des starters, il y a un pont qui va permettre de passer au-dessus d'un lac. Il y a plein de possibilités différentes. Et donc, énormément de matériel pour un prix qui est tout à fait intéressant.
Parlons maintenant de ta présence sur ce festival. Donc, les Jeux du Stan, c'est la première édition. Ça se passe à Nancy. Tu m'as dit que tu étais à Metz, deux villes ennemies jurées de la région. Alors, pourquoi tu es venu ici? Explique-moi un peu.
Alors, bah, d'une part, parce que je connais bien Thibaut, le responsable de la Caverne du Gobelin, qui est quand même l'organisateur de la convention. Je le connais depuis quasiment la création de son magasin, puisque avant d'être un trafin, j'étais à Oriflamme, donc j'existe sur le marché depuis plus de 25 ans. Voilà. Et puis autrement, bah, ça reste quand même Nancy, même si c'est une ville que je n'apprécie pas forcément, étant messin, c'est normal. Elle reste à 50 km, donc tout près, un très bon moyen de faire découvrir les jeux et de pouvoir être en contact avec du public de joueurs de manière rapide et efficace.
Donc pour toi, c'est le bilan est plutôt positif. Donc là, il y a une première journée qui est passée, il y a le samedi qui est passé. Donc là, on attend encore du monde aujourd'hui. Quel est ton ressenti du coup? Tu re-signes pour l'année prochaine? Ça s'est bien passé pour toi?
Alors, tout à fait. Alors, il y avait un double objectif. Le premier objectif, c'était effectivement de faire connaître un trafin en tant qu'éditeur, faire parce qu'on n'est pas encore une marque tellement connue. Et la deuxième chose, c'est faire effectivement découvrir nos nouveautés, en particulier le nouveau produit qui va sortir bientôt, qui est Russian Bash. Et dans les deux cas, j'ai eu des retours très très positifs toute la journée d'hier, qui était plein de monde. Et donc le résultat est bien obtenu.
Surtout que là, tu as un jeu qui se prête bien au public que je sens plutôt ici, qui est vraiment un public familial. Parce qu'ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts pour attirer les familles, je trouve, sur ce festival, avec un espace enfant dédié. Et là, j'ai vu beaucoup de gens à ta table passer. J'ai l'impression que c'est beaucoup de familles, de parents avec des enfants, non?
Tout à fait. C'est une très très bonne, chose. D'ailleurs, ça permet effectivement de renouveler les futurs joueurs. Donc, on ne peut que s'en féliciter. Et effectivement, c'est une manifestation qui est très très bien organisée, avec effectivement plein de choses pour les enfants. Donc, les parents peuvent être dans leur coin, les enfants dans l'autre. C'est vraiment très très bien fait.
En termes un peu plus logistiques, tout ça, comment ça s'est négocié avec vous avez une petite participation, j'imagine, quand même pour le stand, une petite participation financière, parce que l'accès au festival est gratuit au public. On l'a déjà expliqué un petit peu avec l'organisation. J'ai interviewé Quentin qui a pas trop su me dire pour les festivaliers comment ça s'était organisé, mais j'imagine qu'il y a une petite participation financière qui doit, j'imagine, être loin de celle d'un festival comme Cannes.
Oui, oui. Alors oui, effectivement, il y a une petite participation financière qui est pas du tout excessive compte tenu de l'espace, de la surface qu'on va avoir. Elle dépend effectivement de la taille du stand. Moi, j'ai un stand avec trois tables, donc voilà, c'est une petite participation. C'est sans commune mesure effectivement par rapport au tarif qu'il y a sur Cannes. Bon, le public n'étant pas non plus aussi nombreux, ça reste équivalent, mais ça reste intéressant de toute façon, ne serait-ce que pour faire découvrir les jeux, faire découvrir la marque. C'est du marketing, ça fait partie de la communication générale.
Est-ce que tu aurais des choses à ajouter éventuellement?
Non, j'espère que ça va continuer. J'espère que le public va venir encore nombreux aujourd'hui et puis que la prochaine édition sera encore plus intéressante l'année prochaine.
La prochaine édition, il va peut-être falloir qu'il pousse les murs déjà, parce que j'ai cru comprendre qu'hier après-midi, il avait déjà fallu descendre des tables dans des salles en bas. Donc, écoute, c'est tout le succès qu'on leur souhaite. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Christophe.
De rien, à bientôt.